bonsoir à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du jeudi 30 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a confirmé ce jeudi l'absence de survivants dans la collision aérienne entre un avion civil et un hélicoptère militaire survenu hier soir à Washington, D.C. Le groupe armé M23 a annoncé aujourd'hui son intention de rester à Goma, qu'il a récemment conquise aux côtés des forces rwandaises. L'armée française a rétrocédé jeudi sa dernière base à l'armée tchadienne. Le cinquième forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad s'est ouvert hier mercredi à Maïdougouri, marquant le lancement officiel de deux mécanismes de financement. Et dans notre partie magazine, Corneille Nangaa, le leader du mouvement du M23, mouvement rebelle qui avance dans l'est de la RDC, a annoncé que ses combattants y resteront quelques temps avant d'envisager la poursuite de la marche vers Kinshasa.
Corneille Nangaa a rassuré qu'il va rester à Goma pour étudier le stratégie dans quelle mesure il va arriver à Kinshasa, sous peu en tout cas, pour mettre fin à ce qui se passe.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Le président Donald Trump a confirmé ce jeudi l'absence de survivants dans la collision aérienne entre un avion civil et un hélicoptère militaire survenu hier soir à Washington, D.C. Des plongeurs ont retiré ce jeudi les décors des eaux glacées du fleuve Potomac. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Malheureusement, il n'y a pas de survivants, a déclaré le président Donald Trump lors d'un point de presse, ajoutant que ce fut une nuit sombre et atroce dans la capitale et dans l'histoire des États-Unis. Nous en sommes maintenant au stade où nous passons d'une opération de sauvetage à une opération de récupération des corps. C'est ce qu'avait affirmé John Donnelly, responsable des sapeurs-pompiers de Washington, D.C. L'avion civil qui transportait 60 passagers et 4 membres d'équipage venait de Wichita, au Kansas, et devait atterrir à Washington, D.C. Le Pentagone a précisé que 3 militaires étaient à bord de l'hélicoptère. Le régulateur américain de l'aviation a expliqué que l'avion appartenant à la compagnie American Airlines est entré en collision à altitude moyenne avec l'hélicoptère militaire au moment de l'approche de l'aéroport Ronald Reagan de la capitale américaine hier soir. Si le bilan de 67 morts était confirmé, il s'agirait de la pire catastrophe aérienne aux États-Unis depuis novembre 2001.
Le président des Philippines, Fernando Marcos, a indiqué jeudi qu'il comptait bien rencontrer son homologue américain, Donald Trump, pour voir comment influencer sa politique anti-immigration. Je rencontrerai le président Trump parce que nous devons aborder de nombreux sujets de discussion entre les États-Unis et les Philippines concernant le commerce, la défense et la sécurité, et à présent la nouvelle politique en matière d'immigration, a déclaré M. Marcos à la presse. L'ambassadeur des Philippines à Washington, José Manuel Romualdez, a déclaré lundi que 80 Philippins figuraient parmi les personnes devant être expulsées des États-Unis après la vague d'arrestations de centaines de sans-papiers aux États-Unis depuis le début du deuxième mandat de Donald Trump. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a estimé jeudi que ses services auraient besoin en 2025 de $500 millions en plus de son budget ordinaire pour relever les défis considérables dans ce domaine. Des vies sont en jeu si nous n'investissons pas dans les droits de l'homme, a affirmé Volker Türk. S'adressant aux représentants des pays aux Nations Unies à Genève, il a souligné le travail vital accompli par son personnel en 2024, année de crise dans de nombreux lieux de la planète, de Gaza à l'Ukraine, en passant par le Soudan et la Birmanie.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Direction maintenant sur le continent. Le groupe armé M23 a annoncé aujourd'hui son intention de rester à Goma, grande ville de l'est de la RDC, qu'il a récemment conquise aux côtés des forces rwandaises. Il a également déclaré vouloir poursuivre son avancée vers Kinshasa. Le point avec Jean-Roger Billon.
Face à cette crise, le président congolais Félix Tshisekedi a assuré qu'une riposte militaire contre le M23 était en cours tout en mettant en garde contre une escalade régionale. Le président rwandais Paul Kagame a rejeté les critiques à l'encontre de son pays pour son rôle dans le conflit. Kinshasa accuse Kigali d'exploiter illégalement ses ressources naturelles, tandis que le Rwanda affirme vouloir neutraliser les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR, un groupe armé qu'il considère comme une menace. La communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC, tiendra vendredi un sommet à Harare pour discuter de la situation. La Belgique a demandé à l'Union européenne d'envisager des sanctions contre le Rwanda, accusé de violer la souveraineté de la RDC. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu à Kinshasa et à Kigali. Les États-Unis se sont dit profondément troublés par la chute de Goma. L'Allemagne, elle, a annulé les négociations sur l'aide au Rwanda, tandis que la Grande-Bretagne a déclaré que les 32 millions de livres d'aide bilatérale annuelle qu'elle accorde à Kigali pourraient être remis en cause. Les pays africains, quant à eux, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat. La situation humanitaire est critique à Goma. L'eau, l'électricité et Internet sont coupés. Les habitants manquent de nourriture en raison des pillages. Selon les hôpitaux locaux, les affrontements ont fait plus de 100 morts et près d'un millier de blessés. Depuis janvier 2024, plus de 500 000 personnes ont été déplacées, d'après l'ONU.
L'armée mozambicaine a annoncé jeudi qu'elle avait lancé une opération dans le nord du pays après une nouvelle attaque terroriste au cours de laquelle 3 civils ont été décapités. D'après des informations de presse, des assaillants ont tué 3 personnes dimanche à Ravia, près d'une mine d'or artisanale du district de Meluko, dans la province de Cabo Delgado, riche en gaz et théâtre d'une insurrection djihadiste depuis plusieurs années. Sans donner de bilan, les forces de défense du Mozambique ont confirmé ce qu'elles qualifient d'attaque terroriste à Meluko, environ 150 km sud de la frontière avec la Tanzanie. L'armée nigérienne a annoncé jeudi avoir retrouvé dans l'ouest du pays 4 camions utilisés par des camionneurs marocains portés disparus depuis mi-janvier alors qu'ils empruntaient une route entre le Niger et le Burkina Faso, une zone minée par les violences des groupes djihadistes. Selon le dernier bulletin des opérations de l'armée, des ressortissants marocains, dont le nombre n'est pas précisé, ont été enlevés par des individus non identifiés le 18 janvier 2025 sur la route entre Dori dans le nord-est du Burkina et Tera dans l'ouest du Niger. L'armée française a rétrocédé sa dernière base à l'armée tchadienne aujourd'hui. L'annonce a été faite par les états-majors d'armée dans des deux pays après une cérémonie militaire. Une cérémonie officielle pour marquer ce départ est prévue demain vendredi. Nathalie Barge.
La rétrocession de la base Sergent Hadij Kosseï de N'Djamena vient boucler définitivement la présence française au Tchad, conformément à la volonté des hautes autorités, a indiqué l'état-major de l'armée tchadienne dans un communiqué. Le camp de Kosseï a été rétrocédé aujourd'hui à l'armée tchadienne, a indiqué à Paris le porte-parole de l'état-major des armées français, Guillaume Vernet. Les personnels et matériels de combat ont été transférés en France. Des conteneurs seront ramenés par voie terrestre et maritime. Le départ des avions de chasse français le 10 décembre a été suivi le 26 décembre par la rétrocession des bases de Faya dans le nord-est, puis de celle d'Abéché le 11 janvier. Le Tchad était le dernier point d'ancrage de la France au Sahel, où l'armée française avait plus de 5000 militaires dans le cadre de l'opération anti-djihadiste Barkhane, stoppée fin 2022. Depuis lors, Paris a été enjoint de retirer ses troupes du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Centrafrique, et le Tchad a annoncé fin novembre sa décision de rompre les accords militaires avec la France.
Le 5e forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad s'est ouvert hier mercredi à Maïdougouri, marquant le lancement officiel de 2 mécanismes de financement. Ces initiatives visent à renforcer la résilience des populations et à promouvoir un développement durable dans cette région confrontée à l'insécurité, aux déplacements forcés et aux effets du changement climatique. Le point avec Eric Maniakis.
Le président nigérien Bola Ahmed Tinubu, dans son discours d'ouverture, a mis en avant les défis géopolitiques et sécuritaires de la région. Il a plaidé pour une coopération renforcée entre voisins afin d'assurer la stabilité, appelant à des actions ciblées contre les causes profondes de l'insécurité, comme la pauvreté et l'exclusion des jeunes. La gouverneure Hadjer Lamis, présidente du forum, a souligné les défis sécuritaires liés aux violences transnationales, appelant à une intensification des actions militaires et à un meilleur soutien aux déplacés. Elle a insisté sur le financement des plans d'action territoriaux pour une mise en œuvre efficace de la stratégie régionale de stabilisation. Mathias Nab, directeur de la stratégie régionale de stabilisation, a salué les avancées tout en mettant en avant les défis persistants tels que l'insécurité et le changement climatique. Il a souligné la nécessité d'inclure femmes et jeunes dans les stratégies de développement. De son côté, le représentant de l'Allemagne a appelé à une plus grande coordination pour assurer le succès de la stratégie régionale, soulignant que l'unité et la collaboration sont essentielles pour un avenir stable et prospère. Le bassin du lac Tchad touchant le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Nigeria reste une zone en crise où plus de 6 millions de personnes continuent de souffrir.
Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Claire Morin-Gibault.
En Côte d'Ivoire, Souleymane Diarra Souba, le ministre du Commerce, a inauguré cette semaine une usine de transformation de noix de cajou à Akingye d'un coût de 24 milliards de francs CFA. Ecofin précise que le pays veut arriver à transformer localement la moitié de sa production d'ici 2030. En 2024, les industriels ivoiriens ont transformé 344 000 tonnes de noix de cajou, un niveau record qui place la Côte d'Ivoire en troisième position mondiale derrière le Vietnam et l'Inde. Au Maroc, le gouvernement s'apprête à déployer un nouveau programme de lutte contre le chômage dans les zones rurales en accordant une enveloppe d'1 milliard de dirhams, soit 100 millions de dollars. Le ministre de l'Inclusion économique a déclaré que la formation à court terme est essentielle pour doter les demandeurs d'emploi des régions isolées de compétences pratiques. Le gouvernement sénégalais vient d'adopter une nouvelle loi dédiée à la création et à la promotion des start-up. Ce dispositif veut soutenir les jeunes entreprises innovantes en leur accordant des incitations fiscales, un accès facilité au financement et des mécanismes de soutien technique et administratif.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Dany Namaso va rejoindre la sélection nationale camerounaise.
Oui, la Fédération camerounaise de football a annoncé le changement de nationalité sportive de Dany Namaso, qui a joué jusque-là 48 fois pour les équipes des U16 et moins de 20 ans de l'Angleterre. Le buteur du FC Porto a été déclaré éligible le 28 janvier à jouer désormais pour le compte de la sélection nationale senior de la Fédération camerounaise de football avec effet immédiat, déclare la FECAFOOT dans un communiqué. Dany Namaso, auteur de 3 buts en 25 matchs cette saison avec le FC Porto, pourrait être sélectionné par le coach Marc Brice lors de la prochaine fenêtre internationale en mars. Le Cameroun joue contre l'Eswatini et le Cap-Vert à l'occasion des matchs des 5e et 6e journées des éliminatoires du Mondial 2026.
Et puis en Ligue 1 française, Rennes négocie avec Habib Bayé pour remplacer son Paoli.
C'est ce qu'affirme une source proche du dossier. Habib Bayé est arrivé à Rennes, il est en discussion avec le club, a indiqué cette source. L'avenir de l'Argentin José Sampaoli sur le banc du club breton, qui a repris les commandes de l'équipe il y a 2 mois et demi, s'est brusquement assombri en début de semaine après une nouvelle défaite à Monaco 3-2. L'ancien international sénégalais passé par Strasbourg et Marseille comme joueur jouit d'une réputation de coach promoteur depuis son passage au Red Star, qui l'a fait remonter en Ligue 2 en glanant le titre de meilleur entraîneur de la saison en national l'an dernier. Selon le quotidien Ouest France, il aurait accepté de ne s'engager que jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option, et Rennes négocierait actuellement avec Sampaoli les conditions de son départ.
Basketball à présent avec les nouvelles de la NBA.
Le total phénoménal de 52 points inscrits par Shai Gilgeous-Alexander pour Oklahoma City n'a pas suffi. Golden State a remonté un déficit de 14 points pour s'imposer en fin de match face au Thunder, leader de la conférence Ouest, 116-109. De son côté, Cleveland, amené par Donovan Mitchell, 34 points, a battu Miami 126-106 et ainsi maintenu son avance en tête de la conférence Est sur le champion en titre Boston, qui a dominé Chicago 122-100. New York a dominé Denver au Madison Square Garden 122-112. Sur leur parquet, les San Antonio Spurs ont concédé une défaite 128-116 à l'issue d'un match tendu face aux Los Angeles Clippers. Wembanyama, qui a fini avec 23.12 rebonds et 4 passes décisives, a admis avoir succombé à la frustration autant qu'à la colère.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un avion de ligne et un hélicoptère militaire sont entrés en collision au-dessus de Washington avant de s'écraser dans le Potomac. Les autorités, jugeant l'accident évitable, ne s'attendent plus à retrouver de survivants. Pour savoir les principaux facteurs pouvant expliquer cette collision entre un avion et un hélicoptère, Eric Maniakiza a joint le CEO de Combo Jet, Fabrice Combo.
Déjà au départ, la proximité des aéroports militaires et des aéroports civils aux États-Unis est très prononcée. Les pistes au niveau militaire sont juste à côté des pistes civiles. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'était la visibilité. Il n'y avait pas, vu que l'armée a ses propres tours de contrôle, ils ne sont pas exactement sur la même fréquence. L'avion et l'hélicoptère n'étaient pas sur la même fréquence, ce qui a encore, au-delà de la visibilité étant faible, donné occasion à la collision.
Et pourtant, des contrôleurs aériens ont alerté l'hélicoptère de sa trajectoire et lui ont demandé de passer derrière l'avion.
Encore une fois, c'était une question de fréquence. L'hélicoptère n'était pas sur la même fréquence radio que l'avion au moment où le warning a été donné. Et nous anticipons que c'est ça qui a causé le crash, puisque l'hélicoptère n'a jamais changé de trajectoire pendant les dernières 60 secondes.
Quel protocole existe pour éviter ce type d'accident en espace aérien contrôlé?
Généralement, le TCAS, qui est un software, un radar qui permet de déterminer la présence d'autres aéronefs autour. Le TCAS devrait avoir été activé dans l'appareil de American Airlines qui avait d'ailleurs à son bord 64 passagers à Abbey Airport, à l'aéroport de Abbey. Donc c'est ainsi que si le TCAS n'a pas été activé ou le pilote, pour une raison ou une autre, n'a pas vu l'hélicoptère, il y avait aussi le fait de visibilité étant faible. Le pilote n'a pas vu l'hélicoptère, étant un hélicoptère militaire, il n'avait pas de phare sinon le flash de son aile arrière qui n'était pas suffisant pour que le pilote puisse détecter l'aéronef. Donc ils étaient laissés à leurs instruments et à la visibilité. Donc visibilité faible et les instruments, il n'y a pas encore de réponse à pourquoi il n'a pas vu sur son TCAS la présence d'un hélicoptère.
Est-ce un accident qui pouvait être évité selon vous?
Oui, si les pilotes étaient sur la même fréquence, il n'y aurait pas eu d'accident. Il n'y a pas de raison visible de penser que les machines ou il y avait un problème technique. Donc, c'est un problème de navigation, donc évitable.
Comment fonctionnent normalement les échanges entre la tour de contrôle et les pilotes en cas de risque et de collision?
Ils sont sur une fréquence précise. Tous les appareils sont sur la même fréquence. Et malheureusement, les fréquences militaires sont différentes. Donc, le protocole, c'est la radio VH hein, qui est utilisée. Et dans le cas de figure, ils ont essayé de communiquer et à l'hélicoptère et à l'appareil sur la même fréquence.
Fabrice Combo, CEO de Combo Jet, joint au Congo et résident au Colorado.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Corneille Nanga, le leader du mouvement du M23, mouvement rebelle qui avance dans l'est de la République démocratique du Congo, après avoir pris le contrôle de la principale ville de Goma, a annoncé que ses combattants y resteront quelque temps avant d'envisager la poursuite de la marche vers Kinshasa. Il a tenu sa toute première conférence de presse à Goma, 4 jours après que ses hommes en ont pris le contrôle. Eddy Sango a appelé par téléphone Fiston Issemwami, qui était présent à la rencontre avec la presse.
Pour la toute première sortie médiatique de Corneille Nanga, coordonnateur de HCL en 23, il a été question d'abord d'appeler toute la population calme d'évacuer librement aux occupations différentes. L'inventoire a rassuré que l'électricité sera rétablie à l'immédiat, donc à partir de demain, il y aura déjà l'électricité ainsi que de l'eau potable qui va couler au robinet. En tout cas, c'est une assurance que Corné Nanga a donnée à toute la population. Ce matin, il y a eu plus de 200 éléments des FARDC qui ont été bien sûr embarqués dans des fusseaux et envoyés dans un centre où ils vont subir une formation militaire. Ça sera une mise à jour. Ça sera une formation militaire professionnelle selon les autorités militaires d'IAN 23. Et ces militaires ont accepté bien sûr d'adhérer au mouvement d'IAN 23 pour continuer avec ce qu'ils appellent la libération de la République démocratique du Congo. Corné Nanga a rassuré qu'il va rester à Goma pour étudier la stratégie dans quelle mesure il va arriver à Kinshasa. Sous peu en tout cas, pour mettre fin à ce qui se passe au niveau du gouvernement de la République démocratique du Congo. Et aussi, il faut retenir quand même que le M23 a bien sûr appelé les déplacés des guerres de commencer déjà à regagner leur milieu naturel.
Qu'a dit Corné Nanga au sujet du mouvement des troupes de M23 annoncé dans le sud Kivu qui s'avancerait vers Bukavu?
En tout cas, sur cette question, il n'a pas eu à se prononcer à long large là-dessus, mais il a rassuré que toute l'Est de la République démocratique du Congo sera en tout cas sous contrôle d'IAN 23 dans le jour qui vient, puisque Corné Nanga et son mouvement, bien sûr, avec tous ses collaborateurs, sont vraiment tous déterminés à libérer toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de mettre fin à ce qu'il qualifie de l'injustice qui règne au gouvernement de Kinshasa et de rétablir la paix partout. Il veut que tout le peuple vive en paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sans bien sûr divergence aucune.
Toi, tu es à Goma, mais aujourd'hui, quelle est la situation dans cette ville-là?
Aujourd'hui, la situation est vraiment calme parce que pendant que nous faisions la tournée dans la ville, on a vu des marchés qui ont repris déjà petit à petit. On a vu des transports en commun. Il y a des mouvements de population dans toute la ville. Les gens circulent, les gens commencent à reprendre petit à petit leurs activités en tout cas. Et on a vu surtout le service de la Croix-Rouge en train d'évacuer tout le cadavre qui traînait encore dans des rues et des avenues de la capitale de la province Nord Kivu, à la grande satisfaction de la population, puisque ces corps constituaient déjà un danger en ce qui concerne l'hygiène de la population. Et donc, pour l'instant, là, il n'y a pas de coup de feu dans la ville, tout est calme et la vie reprend petit à petit dans la capitale de la province Nord Kivu.
Merci beaucoup, Fiston Issemwami, depuis Goma.
Merci.
Fiston,
restez branchés sur VOA Afrique, à Goma, sur 96.2 FM.
L'Organisation mondiale de la santé rapporte que l'endométriose touche 490 millions de femmes en âge de procréer dans le monde. Toutefois, la prise de conscience reste faible en Afrique. Une association nigériane à but non lucratif mène une campagne visant à sensibiliser le public et aider les femmes à faire face à cette affection douloureuse. C'est un reportage de Timothy Obiezu depuis Abuja. Le récit est de Michel Joseph.
Il y a 20 ans, Sharon Nketchi Adu a connu son premier cycle menstruel à l'âge de 15 ans. Depuis, chaque mois, lorsque ses règles arrivent, la douleur est si forte qu'elle doit être hospitalisée.
Ma mère n'a pas pris la chose au sérieux, alors j'ai continué à la gérer jusqu'à l'université. Sur le plan émotionnel, c'est toujours autre chose parce que parfois, vous arrivez à un point où vous vous dites « Pourquoi moi ?»
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'endométriose touche 10% des femmes et des jeunes filles en âge de procréer dans le monde. Elle provoque de fortes douleurs dans l'abdomen et le bassin et peut augmenter les risques d'infertilité jusqu'à 50% chez les femmes. Malgré cette menace, le manque de données précises sur sa prévalence en Afrique subsaharienne a conduit à un sous-diagnostic et à un faible taux de dépistage par rapport à l'Europe et aux États-Unis. Le docteur Latif Akinola, consultant en obstétrique et gynécologie.
We have about 30 to 40% Nous avons environ 30 à 40% de nos patientes qui souffrent d'endométriose, c'est-à-dire des femmes en âge de procréer. On pense également que 11% de nos élèves ont une endométriose non diagnostiquée. La stigmatisation est due au fait que cette maladie est très peu connue, que le diagnostic par un spécialiste est rare et que la procédure de dépistage est coûteuse et difficilement accessible dans la plupart des régions du Nigeria.
De nombreuses personnes ne considèrent pas non plus l'endométriose comme un problème grave. C'est là qu'interviennent Olivia Nwankudu et son association à but non lucratif Endo Survivors International Foundation. Elle a lancé son association en 2017, des années après avoir découvert sa propre maladie, afin de sensibiliser le public et d'augmenter le nombre de diagnostics.
Lorsqu'une jeune fille entre dans le cabinet d'un médecin en souffrant de violentes crampes menstruelles, l'endométriose n'est généralement pas la première chose à laquelle il pense. Nous organisons également des formations pour les médecins de premier recours afin qu'ils puissent augmenter l'indice de suspicion de l'endométriose.
La Fondation a déjà aidé plus de 2000 patientes atteintes d'endométriose à accéder à des soins et à sensibiliser des milliers d'écolières. Elle organise également des rencontres de soutien périodiques pour aider les femmes qui souffrent émotionnellement. Selon Mme Nwankudu, sans un soutien significatif du gouvernement et du secteur privé, il sera difficile de sensibiliser le public à l'endométriose et beaucoup d'autres femmes risquent de voir leur situation empirer.
Au Cameroun, un réchaud alimenté par de l'huile de véhicule recyclé offre aux ménages une option de cuisson plus propre et plus abordable. Cette innovation, conçue par un ingénieur local, contribue aussi à réduire la pollution de l'environnement et les risques sanitaires associés aux méthodes traditionnelles de cuisson au charbon. Récit Yakuba Ouedraogo.
Depuis plusieurs mois, Suzanne Nouboustier, une ménagère de Douala, a troqué son fourneau à charbon contre un fourneau à huile recyclé. L'appareil, conçu par un ingénieur camerounais, est alimenté par de l'huile de vidange et de l'énergie solaire.
C'est-à-dire à n'importe quel prix, tu peux l'avoir et pas loin. Je suis vraiment satisfaite, comme je vous le dis, et le gaz est vraiment rapide. Nous, les femmes, nous aimons la rapidité et l'efficacité dans la cuisine.
L'idée de créer cet outil de cuisson rechargeable à partir d'huile usagée est d'Éric Tanque, un ingénieur en énergie vivant à Douala, ici dans son atelier. En 2022, son mécanicien lui a expliqué les difficultés qu'il rencontrait pour se débarrasser des huiles usagées. Après quelques recherches, Tanque découvre que cette huile peut être utilisée comme carburant. Il a ensuite passé un an à mettre au point une formule de recyclage de l'huile et à concevoir une cuisinière capable de l'utiliser dans un environnement de cuisine sûr.
On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes pulmonaires liés à l'inhalation de monoxyde et dioxyde de carbone, qui sont des gaz dégagés par la combustion du bois. Et c'est un réel problème de santé publique.
Tanque ne nous dévoilera pas le processus par lequel il transforme l'huile usagée en carburant, mais il affirme traiter environ 5 tonnes d'huile par mois, contribuant ainsi à protéger l'environnement.
Il y avait également ce problème de lutter efficacement contre la pollution des sols, parce que ces huiles sont déversées partout, personne n'en veut, personne ne les valorise et il n'y a qu'une faible quantité de ces huiles qui sont généralement reprises et recyclées.
Le réchaud qu'il fabrique est vendu à 70 000 francs CFA. Tanque explique que 2 litres d'huile coûtant 1 500 francs CFA permettent d'obtenir le même temps de cuisson qu'une bouteille de gaz domestique de 6 kg coûtant 6 500 francs CFA. En plus de la protection de l'environnement, le recyclage de l'huile usagée présente d'autres avantages économiques, selon Guy Merlin Tendu Wandier, expert en développement durable.
Les huiles usagées, c'est des déchets liquides dangereux et qui ne sont pas bons pour l'humain et les êtres vivants. Donc il est très important que ces déchets liquides ne se retrouvent pas dans la nature, mais qu'ils soient récupérés par des experts, des spécialistes et des professionnels du milieu pour les recycler, les traiter avant de les remettre sur le marché. Également aussi, c'est une très bonne chose que ces huiles soient réglées parce que cela participe à l'économie circulaire, ce qui fait que ça crée des emplois.
Pour les personnes comme Nouboussier, le fait de cuisiner avec moins de fumée que le fourneau à charbon auquel elle était habituée est un changement bienvenu qui lui permet de préparer ses repas de manière plus sûre
et plus propre.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Joselle Maurice. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.